Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis ensuite, nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, toujours Benaouda Delaïm qui nous ramènera sa moisson d'études glanées dans le monde entier comme chaque semaine. Et puis Alexandra Paget qui nous racontera l'histoire du protectionnisme. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Mais comment le système de santé français en est-il arrivé à s'enfoncer dans la plus grave crise de son histoire et surtout comment le remettre en ordre de marche? Est-ce que le sursaut viendra de réformes décidées par le gouvernement? Est-ce que le changement viendra d'une nouvelle approche de la médecine, de la santé, de la maladie et surtout viendra-t-elle de la révolution numérique qui bouleversera, qu'on le veuille ou non, notre système de santé? Réponse avec nos deux invités. La première réponse, c'est ce qui sauvera notre système de santé, c'est plus de numérique. Bonjour Jérôme Bourreau.
Bonjour.
Jérôme, vous êtes le cofondateur de la plateforme d'e-santé Anamnèse et vous publiez Les Oubliés du Digital aux éditions Débat Public. Et puis ce qui sauvera notre système de santé, c'est aussi plus d'humains. C'est ce que vous nous dites, Alain Toledano.
Bonjour.
Bonjour Alain, vous êtes directeur du centre de cancérologie Hartmann, fondateur de l'Institut Raphaël, vous dirigez la chaire de médecine intégrative au CNAM et vous publiez L'Art de soigner aux éditions Humensis. Je commence avec vous Alain Toledano, comment vous expliquez finalement cette espèce d'affaissement du système de santé français qui paraît à bout de souffle alors qu'il a tout pour être le meilleur système de santé du monde?
Alors d'abord, on a de la chance en France, faut dire merci à la France, parce qu'on a un système accessible avec de belles valeurs. Mais par contre, même si le système ça coûte 260 milliards d'euros par an, c'est 11% du PIB de la France, il nourrit le mécontentement des usagers, les frustrations des soignants, il y a des tensions administratives, des rigidités d'organisation. Donc le projet finalement, c'est de changer le paradigme et de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu.
Parce que est-ce que finalement, alors on peut parler suradministration, technocratie, système hospitalo-centré, mais est-ce que au cœur finalement de l'erreur française entre guillemets, c'est pas ça le sujet justement, ce système exclusivement centré sur la maladie et pas sur le patient?
Exactement, parce qu'en fait, quand on parle de système de santé, on peut se demander, Emmanuel, c'est quoi la santé?
Exactement.
Alors timidement, est-ce que vous êtes en bonne santé? Vous pouvez répondre à ça? Alors les gens, ils vont dire timidement oui. Mais en fait, la santé, c'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est pas le silence des organes. La santé, elle va se composer de santé psychologique, santé émotionnelle, santé sexuelle, santé sociale, santé environnementale. Donc c'est un appel à intégrer des dimensions différentes de la santé. Et notre système aujourd'hui à l'acte traite des maladies et pas forcément des individus.
Effectivement, si on se pose la question sur c'est quoi être en bonne santé aujourd'hui, le pendant c'est quoi soigner aujourd'hui?
Alors soigner, c'est soigner une maladie, mais aussi prendre soin. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, chaque personne, elle a d'infinis besoins. Vous pouvez rembourser 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue pour les 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer, par exemple. Donc de la prévention à la manière de gérer les maladies chroniques, c'est 20 millions de Français qui ont des maladies chroniques. Insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance rénale, endométriose. Ils souffrent et la réponse aujourd'hui, elle est dans la prescription. Donc passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative, avec toutes les dimensions de la santé et des interventions non médicamenteuses.
Préciser, parce que la notion de médecine intégrative, elle est justement au cœur de votre philosophie, de l'Institut Raphaël, etc. C'est quoi la médecine intégrative?
Alors aujourd'hui en France, on a tendance à cloisonner, créer des expertises. On a beaucoup de sachants. Mais finalement, ce mouvement de différenciation, qui est bien compréhensible, il a un pendant, qui est le mouvement inverse, qui est l'intégration. Connecter les gens les uns avec les autres, faire la synthèse. Donc là, on va intégrer des mouvements, des dimensions de la santé, on va intégrer des acteurs paramédicaux, des sophrologues, des sexologues, des psychologues, des nutritionnistes, des médecines orientales.
Mais les médecins, ils veulent pas entendre parler de ces charlatans, entre guillemets.
Vous savez ce qu'est la définition de la médecine, Emmanuel ?
Non.
La médecine, c'est toutes les connaissances scientifiques et les moyens qui sont mis en œuvre pour soulager, pour prévenir et pour traiter des maladies, des blessures et des infirmités. Avec des mots, on soigne, avec des mots, on tue. Donc la médecine, c'est pas uniquement la haute technologie qui doit la préempter. La médecine doit être au contact du corps et de l'esprit.
Alors, ce qui frappe aussi quand on lit votre livre, vous l'avez dit, hein, vous avez dit, on consacre énormément d'argent à la santé, mais alors avec un rendement qui est désastreux, parce qu'en fait, on met beaucoup d'argent là où on devrait en mettre peu et on en met très peu là où on devrait en mettre beaucoup. Et je pense à tous les chiffres que vous citez sur la prévention. Honnêtement, je pensais pas que ça pouvait atteindre des proportions pareilles, ce qu'on pouvait attendre du retour sur investissement de la prévention.
Alors, on va donner un exemple simple. Il y a 400 millions de consultations médicales chaque année en France. 50% d'entre elles, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les médecins ? Ben, on coupe la parole au patient en moyenne au bout de 23 secondes. Et on prescrit dans plus de 90% des cas des médicaments. Et on jette une boîte sur deux à la poubelle. 7 milliards d'euros par an. Alors, Emmanuel, vous nous posez la question de la prévention. Vous savez que 40% des cancers sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables.
Ouais.
Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids. Mais on a moins de 3% des budgets alloués à la prévention.
Alors que, est-ce qu'on a une idée du gain que pourrait rapporter une politique de prévention ?
Oui, les études sérieuses disent qu'en diminuant, et c'est faisable, de près de 30% la mortalité prématurée, donc chez les gens de moins de 70 ans, on pourrait gagner 10% de PIB à 10 ans.
10% de PIB ?
Voilà un programme politique.
À 10% de PIB, avec tout ce qu'on pourrait faire, effectivement, avec...
La santé, c'est de la création de valeur. Quand on investit en santé, c'est pas une dépense. Investir un euro, ça rapporte 2 à 4 euros à 10 ans. Et ça, toutes les études sérieuses le montrent.
Pourquoi on le fait pas ?
Je pense qu'il y a une question de culture. Donc arriver à ne pas traiter à la dernière minute des maladies avérées, investir dans la santé, les systèmes de prévention, pas uniquement dans les structures hospitalières dont on a besoin, ne pas regarder la maladie, mais les équilibres de vie à chaque âge. Donc c'est un changement culturel qu'il faut opérer.
Mais est-ce que dans le constat qu'on fait aujourd'hui, il n'est pas imputable aussi, finalement, quand même au surpoids, à la surcharge administrative, réglementaire, à la paperasserie, et qui dissuade finalement le médecin généraliste, quand est-ce qu'il a le temps de faire de la prévention ?
On a une bonne administration en France qui fait ce qu'elle doit faire. Je pense qu'il faut une politique ambitieuse avec une réforme, je dirais, de la culture. Si on s'occupait des gens, alors naturellement, le système tournerait différemment. Et donc les maladies chroniques, c'est 20 millions de Français qui souffrent de maladies chroniques. C'est 100 milliards d'euros par an. Donc si la réponse, elle est exclusivement dans la prescription médicamenteuse, médicaments dont on a besoin, eh bien on continuera à avoir un système inflationniste. Et notre objectif, c'est de passer d'une assurance maladie à une assurance santé.
Oui, alors vous avez une vision aussi, vous, de ce que vous voulez faire de l'assurance maladie, sur les incitations que l'assurance maladie doit envoyer finalement à la fois aux soignants et aux patients.
Au lieu de réguler le coût des pratiques et des actes, l'assurance santé, elle est là pour promouvoir des modes de vie. Donc on va avoir un côté éducationnel et on accompagne les gens, même quand ils ne sont pas malades, pour qu'ils ne tombent pas malades.
Est-ce que la vertu de ça, justement, c'est pas aussi de revaloriser considérablement le statut des soignants aussi ?
Il est indispensable de revaloriser le statut de ceux qui s'investissent en général, les soignants comme les professeurs, comme tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Maintenant, c'est pas uniquement avec des ressources financières. Il faut donner un sens. Il y a une crise de sens. Il y a 1 million d'infirmières et d'aides-soignants en France. Il y a 40% qui veulent changer de métier parce qu'ils trouvent pas de sens. Mais s'occuper de la maladie, c'est pas suffisant. On doit s'occuper des gens et de leurs équilibres. Donc il va falloir inscrire tout le monde dans un projet collectif qui a du sens.
Alors il y a un chiffre, enfin je sais pas si c'est un chiffre ou si c'est un fait que vous décrivez qui m'a stupéfié dans votre livre, c'est les femmes soignent mieux que les hommes.
Alors c'est pas exactement ça, mais dans une population américaine, on a observé que les patients qui avaient des médecins hommes par rapport à des patients qui avaient des médecins femmes et plus jeunes se guérissaient un peu plus. Ce qui veut dire qu'il y a une composante affective et émotionnelle, l'écoute, dans la prise en charge et dans la guérison. Il n'y a pas que la technicité. Donc c'est une étude à grande échelle, avec des biais. Mais c'est important de dire qu'il n'y a pas que ce caractère technique et que la dimension humaine dans la prise en charge, elle doit être l'objet de notre refonte du système.
Mais la refonte du système, elle peut venir d'où ? Comment ça peut se passer finalement ?
C'est à toutes les échelles. Bien sûr, ça commence toujours par la transmission, l'éducation.
Parce que là, vous avez votre institut Raphaël qui est une sorte de laboratoire en fait de tout ça.
C'est un des laboratoires, il en existe d'autres. Par exemple, on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés, qui vont être orientés vers la nutrition, vers les émotions, vers l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Alors à l'Institut Raphaël, on offre les soins et on les évalue aux patients qui sont atteints de maladies chroniques pour montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait de la maladie.
Les freins au changement, ils sont où aujourd'hui ? Vous dites c'est culturel, mais c'est un peu pudique de dire c'est culturel. Il y a aussi des gens qui veulent pas que ça change ou...
Non, je crois que spontanément, vous savez, quand vous demandez à un patient « est-ce que vous allez bien ?», la plupart du temps, il va dire « ben oui, ça va », parce qu'il se protège. Et si on l'écoute 5 minutes, dans 50% des cas, vous verrez que les gens sont déprimés. Et alors si vous l'écoutez 15 minutes, c'est assez rare, dans 80% des cas, il y a des troubles sexuels. Donc en fait, le sujet aujourd'hui, c'est d'arriver à donner du temps, parce que le temps, c'est de la qualité, et arriver à accompagner les gens autrement qu'avec de la prescription.
Alors justement, on a peut-être... les moyens de changer la donne de tout ça avec vous, Jérôme Bourreau. Parce que donc plus d'humains, on l'a bien compris. Mais ce qui va changer la donne aussi, c'est plus de numérique. Et ce qui est important dans votre message, Jérôme Bourreau, c'est que vous dites, finalement, partout où le numérique a fait son entrée, il a quand même tout balayé sur son passage. Mmh. Et pour le bien, en général, à la fois des clients... ou des patients, et des salariés.
Alors, en fait, moi, j'ai un parcours qui est de... J'ai travaillé pendant 20-25 ans en transformation digitale dans différents secteurs, donc c'est pour ça que c'est de là que je tire mon expérience. C'est d'abord dans la transformation digitale dans les billets de train. Aujourd'hui, plus personne ne regrette de devoir faire la queue debout pendant 20-30 minutes avant de pouvoir acheter un billet de train. C'est quand même plus sympa de le faire depuis son canapé.
Vous parlez à quelqu'un qui, pour gagner de l'argent l'été, justement, vendait des billets de train et voyait les gens avec leurs tickets attendre des heures pour prendre leur billet de train.
Donc ça, c'est le côté consommateur qui bénéficie. Mais en fait, aussi côté sachant, côté ceux qui connaissent le métier, la transformation du métier a fait que on a pu renverser les paradigmes et faire en sorte que dorénavant un vendeur peut être beaucoup plus proche de son client plutôt que d'être derrière une vitre. Donc ça, en fait, on peut transformer les usages à partir du moment où on a pu laisser le pouvoir aux utilisateurs de faire déjà une première partie de la démarche.
Est-ce que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites finalement dans tous ces secteurs qui ont été qui se sont digitalisés avant finalement le secteur de la santé, on retrouvait toutes les objections au départ qu'on retrouve aujourd'hui dans le secteur de la santé.
En fait, c'est propre au fait que lorsqu'on veut faire de la transformation digitale, il y a des sachants qui sont aujourd'hui en poste, qui font les choses d'une certaine manière et qui ont peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est comment est-ce que mon travail va changer demain, une fois que j'aurai mis en place ces nouvelles pratiques. Il faut être assez audacieux pour accepter de ne plus faire de la médecine comme on le faisait hier ou avant-hier. Et effectivement, ça fait toujours un petit peu peur. Donc ça, je pense que c'est une des parties des freins que l'on rencontre chez les professionnels de santé, et pas que les médecins, infirmières, pharmaciens, kinés et autres, que l'on a retrouvé à la FNAC quand il s'agissait de justement de transformer les usages à la FNAC, à la SNCF, dans la banque, dans tous les secteurs dans lesquels j'ai pu travailler jusqu'à présent.
Alors votre conviction qui est quand même très forte, c'est de dire de toute façon la grande révolution du numérique, c'est quand même la révolution de la data. Alors vous citez des chiffres hallucinants sur les data disponibles.
En fait, la donnée produite double dans le monde tous les 73 jours.
D'accord.
Donc en fait, ça montre déjà la quantité de données qu'il faut ingurgiter. Et en plus, et c'est là en fait que vient une des problématiques qu'on a dans le domaine médical, c'est que on demande aux médecins dorénavant d'ingurgiter ces données. Or, le nombre de publications qui sort et sur lesquelles les médecins sont censés s'appuyer pour pouvoir enrichir leurs connaissances et se maintenir à jour explose. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive de plus en plus à une hyper spécialisation du secteur de la médecine, avec des médecins qui vont être, comme Dostoïevski l'écrivait, le médecin qui est spécialiste de la narine gauche plutôt que de la narine droite. Et effectivement, on a cette hyper spécialisation qui fait que aujourd'hui, enfin, on en bénéficie, hein, il faut pas se plaindre. Aujourd'hui, c'est grâce à cette hyper spécialisation, grâce à cette quantité de données qui a explosé et que l'on maîtrise de plus en plus, qu'on a une expérience de vie qui a explosé.
Parce que la data, c'est tout ce qu'on sait aussi sur le patient.
Alors, c'est tout ce que l'on peut collecter sur le patient. Alors, soit par le biais de mesures de constantes, les constantes physiologiques, par exemple, pouls, tension, température, et ainsi de suite, mais aussi par l'apparition, la disparition de symptômes, la vitesse à laquelle des comorbidités sont arrivées, des facteurs de risque, pardon. Et donc ça, c'est autant de données qui peuvent faire avancer la recherche.
Quand votre livre s'intitule « Les oubliés du digital ». Qui sont ces oubliés du digital ?
Alors justement, les oubliés du digital, je pense qu'à la première fois, lorsqu'on lit le titre, on se dit « bah oui, bien évidemment, c'est pour les patients », mais en fait, non. Il n'y a pas que les patients qui sont concernés par les oubliés du digital, mais je ne vais pas dire ma thèse, mais mon motto, c'est de dire que les professionnels de santé aussi ont beaucoup à gagner à utiliser le digital. Parce que, on prend un exemple tout bête, aujourd'hui un patient qui va prendre un rendez-vous pour aller voir son médecin, sur une plateforme digitale au hasard, va prendre ce rendez-vous, va attendre, dans le meilleur des cas, 24 heures. Il va être en contact avec son médecin pendant 10 minutes. Si vous faites le ratio de ces 10 minutes de contact avec le médecin sur les 24 heures passées à attendre, vous allez voir que le patient passe 99% de son temps à attendre. Et ces 99% de son temps, on n'en fait absolument rien. Si on était capable de préparer la consultation, l'anamnèse du patient en amont, ça permettrait au médecin, alors on pourrait imaginer énormément de changements. Premièrement, ça permettrait au médecin, lorsque il a son patient qui arrive, d'avoir le dossier patient qui a été prêt, mais aussi potentiellement de dire, bah tiens, ce patient, le patient qui va arriver à 16h40, c'est un patient qui a des symptômes contagieux. Donc déjà, peut-être, on pourrait peut-être déjà faire des créneaux de téléconsultation pour les patients qui sont susceptibles d'avoir des créneaux, enfin, qui sont susceptibles d'avoir des symptômes contagieux plutôt que de les laisser venir en salle d'attente. Deuxièmement, on pourrait aussi prioriser des patients qui, a priori, d'après le questionnaire qu'on aura pu leur envoyer, ont des symptômes qui nécessitent une levée de doute rapide du patient. Aujourd'hui, tous les patients sont traités à la même enseigne. Il y a une égalité de traitement et non pas une équité de traitement.
Est-ce que cette vague de la data, elle est irrésistible ? Parce que vous dites, elle va tout balayer sur son passage. En fait.
Alors, la vague de la data, elle va bien évidemment changer la donne parce qu'en fait, elle est nécessaire pour faire de la recherche. Et dans les pays en Europe où le RGPD, désolé des acronymes, mais c'est la réglementation européenne de protection des données, la RGPD en Europe est assez contraignante et donc nous empêche de faire autant de collecte de données qu'on souhaiterait parce qu'en fait il faut protéger la vie des patients. Ça, on le comprend tout à fait. Mais en fait, il y a d'autres pays où il n'y a pas du tout ces lois-là. On prend en Chine, où par exemple un géant du web comme Tencent, qui n'est pas très connu en France, mais Tencent, c'est l'équivalent d'un Doctolib plus un outil de livraison des médicaments plus un outil de téléconsultation. Et en fait, un outil comme Tencent gère 222 millions de patients en numérique.
Et ça, ce sera incontournable parce que vous dites, en fait, on est confronté à une hausse exponentielle de la demande de soins, alors que l'offre ne progresse que de façon
de manière linéaire. Voilà, c'est ce que j'appelle le point de singularité. C'est qu'en fait, c'est mon analyse de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France, on a l'impression que notre système s'écroule. Ouais. C'est qu'en fait, on a jamais mis autant de moyens dans les soins. Qu'aujourd'hui, on a 1,4 million de professionnels de santé. Donc, ce nombre de professionnels de santé a augmenté de 14% sur les 15 dernières années. Donc, on a une augmentation, ce que j'appelle une augmentation linéaire de la capacité à produire du soin. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a ? On a des patients qui sont de plus en plus demandeurs de soins. Bon, il suffit de regarder, par exemple, la pyramide des âges. On a quand même une population qui reste plus longtemps en vie, c'est tant mieux. Mais un patient âgé consomme 2,3 fois plus de soins qu'un adulte en situation normale. Donc en fait, on a de plus en plus de besoins, de par la pyramide des âges, de par l'hyperspécialisation qui fait qu'en fait aujourd'hui, pour être traité par un médecin, on va peut-être rencontrer le premier médecin généraliste, puis un deuxième spécialiste, puis un troisième spécialiste, et ainsi de suite, on va démultiplier le nombre de consultations pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'à la fin, on va tomber sur le spécialiste qui va être capable de mettre le doigt sur le problème du patient. et donc le résoudre.
Est-ce que le numérique sera celui qui arrivera à vaincre? Vous allez dire c'est mon obsession, mais l'hyper bureaucratie, l'hyper administration.
Je ne sais pas. En fait, ce que le numérique va être capable de faire, c'est ce qu'il a fait dans tous les autres secteurs de l'industrie, c'est qu'en fait, il rend transparent certaines informations. Et rendre transparent, c'est des choses qu'aujourd'hui, par exemple, on refuse de voir.
Ouais. Rendre transparent, c'est rendre plus efficace quand même.
Alors, d'abord, c'est juste rendre visible des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Et donc, ça fait mal, parce qu'en fait, on est capable tout d'un coup de mesurer, enfin, comme quand un médecin va mesurer un pouls, une tension, une température, il va mesurer des métriques chez un patient. Le numérique, aujourd'hui, permet de mesurer des métriques de notre système de santé, pour vérifier si notre système de santé est malade ou pas. On peut faire un peu une analogie comme ça, d'ailleurs. Et en fait, ces données qui peuvent être collectées vont... aide justement à prendre la mesure de ce qu'il se passe réellement. Et après, toute la complexité, c'est comment est-ce qu'on agit une fois qu'on a compris qu'il y avait des problèmes. De la même manière qu'un médecin, comment est-ce qu'il va agir une fois qu'il va voir que la tension est à... ou plutôt la température est à 38 et alors que la tension a baissé.
La grande question qu'on se pose aussi, Jérôme Bourreau, c'est qu'est-ce que ça va être le rapport entre l'homme et la machine, quoi. Est-ce qu'il faut craindre le grand remplacement de l'homme par l'intelligence artificielle?
Alors justement, là-dessus, je vais vous donner le point de vue d'un ingénieur. C'est qu'on a besoin des médecins pour justement nous éviter de faire des bêtises. C'est-à-dire que si on n'est pas nous... notre boulot en tant qu'ingénieur, c'est de travailler à l'optimisation des différents systèmes. Le boulot des sachants, c'est-à-dire ceux qui connaissent le métier, c'est nous dire à un moment donné, stop, là tu t'arrêtes, parce que là tu vas un peu trop loin. Mais c'est travailler avec nous. Aujourd'hui, un des risques qu'on court en France, c'est qu'on a des professionnels de santé qui ne se digitalisent pas assez vite. Et résultat, comme c'est assez frustrant pour les patients que nous sommes, de voir que des choses pourraient mieux fonctionner, en fait on a tendance à faire des choses de plus en plus poussées. Et ça, je vous parle juste de la France dans laquelle... on a des professionnels de santé qui ne prennent pas forcément le train de la transformation digitale. Imaginez ce qui se passe dans d'autres pays, comme la Chine par exemple, où en fait là, c'est brutal. Et en fait, la force de frappe des ingénieurs est totalement jouxtée à celle des médecins, mais pour le coup, sans le contrôle ou l'autocontrôle que les médecins pourraient imposer aux ingénieurs. Donc en fait, c'est une des chances qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est, je pense, à la croisée des chemins. Dans le domaine médical, on arrive grâce à cette, alors je suis désolé de le dire comme ça, mais grâce à cette singularité où on sent que le système donne l'impression que s'écroule, il ne s'écroule pas, mais il donne l'impression de s'écrouler, parce qu'en fait, on a beaucoup plus de besoins et on a une quantité de production de soins qui ne monte pas aussi vite que nos besoins. Là, c'est la chance justement pour essayer de changer nos pratiques, changer de paradigme et faire en sorte que les professionnels de santé pensent à mettre en place des soins différemment et laissent davantage le patient faire une partie de leur boulot pour justement les aider eux-mêmes.
Alain Toledano, plus de numérique, c'est plus d'humains aussi?
Ah oui, tout à fait. En fait, on va forcément déléguer des tâches répétitives à des ordinateurs qui font mieux que nous. Ensuite, je vous donne un exemple. Moi, je suis cancérologue. Aujourd'hui, chaque tumeur est particulière. Il faut analyser des milliers de mutations génétiques. Et il y a des médicaments très innovants qui sont pas visibles finalement dans leur mode d'action. Et donc, il y a des algorithmes qui aident à la décision. Il y a des algorithmes qui nous aident à prédire le développement. Donc, on a besoin des ingénieurs en médecine. Et par exemple, moi qui suis radiothérapeute, donc effectivement, on utilise des rayons X pour détruire les tumeurs. Quand vous avez une tumeur qui est posée à 2 mm du nerf optique, comment on fait sans opérer pour garder la vue et détruire la tumeur? Eh bien, c'est grâce à des robots. Donc, vive le numérique, à condition qu'ils nous permettent de réhumaniser la médecine.
Merci, messieurs, pour cette ouverture vers ce que pourrait être... la médecine de rêve, finalement, de demain, et un système de santé un petit peu renouvelé. Les oubliés du digital, Jérôme Bourreau, c'est publié aux éditions Débat Public, et puis votre livre, Alain Toledano, L'art de soigner, aux éditions Humaines Sciences. Voilà, dans la collection Débat. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, Benaouda Abdelhaïm, notre globetrotteur, et Alexandra Paget qui nous fera voyager dans le temps. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitrée de la Société d'économie politique. On commence, Christian Chavagneux, avec votre choix. Commerce, argent, pouvoir, l'impossible avènement d'un capitalisme en Chine, 16e, 19e siècle. C'est écrit par François Gipoulou et c'est publié aux éditions du CNRS. Le décor est planté.
Voilà, François Gipoulou, c'est un chercheur donc au CNRS et c'est un spécialiste de l'histoire économique chinoise. Et l'importance du livre est dans le sous-titre. Pourquoi est-ce que le capitalisme en Chine n'a pas démarré alors qu'il a démarré en Angleterre, s'est répandu en Europe, et pourquoi pas en Chine? Donc on connaît la réponse de Kenneth Pomerance, l'Américain,
absolument,
qui nous dit jusqu'au 18e siècle à peu près, la Chine était au même niveau, certaines régions chinoises étaient au même niveau que l'Angleterre. Et pourquoi est-ce que ça s'est pas développé? Alors lui, sa réponse est de dire parce que il y avait en Angleterre le sous-sol regorgé de charbon, qui était la source d'énergie principale, et puis les colonies américaines apportaient le coton pour pas cher, qui était la nouvelle économie du moment, le textile. Et là où le bouquin Gipoulou est intéressant, il dit non, c'est peut-être pas ça. D'abord, premier constat, au XVIIIe siècle, la Chine n'était pas du tout au niveau de l'Angleterre. Et il nous explique pourquoi. Il y a deux grandes raisons, et c'est les deux grandes raisons pour lesquelles le capitalisme ne s'est pas développé en Chine entre le XVIe et le XVIIIe. Première raison, c'est qu'il y avait de l'épargne, il y avait des bas, mais elle ne s'investissait pas. Un manque de capital à mettre dans l'économie. Les institutions juridiques, financières, les outils n'étaient pas là. Quels outils? Par exemple, la comptabilité en partie double. Elle se développe dès le Moyen-Âge en Europe. Comptabilité en partie double, ça permet d'avoir, pour chaque chose qui se passe dans l'entreprise, à la fois un débit et un crédit, ça permet d'avoir une image fiable de la valeur de l'entreprise, de sa dynamique. Quand vous êtes un investisseur, pour investir dans l'entreprise, vous avez besoin de savoir
absolument.
Ça. Il n'y a pas cet outil comptable en Chine.
D'accord.
Le capital est bien présent, il y a bien de l'épargne, mais c'est complètement régionalisé. En Europe, depuis les foires de Champagne, j'ai envie de dire au XIIe siècle, le capital circule déjà dans toute l'Europe. Ouais. Là-bas, en Chine, il reste régionalisé. Quand on fait crédit aux gens qui sont autour de soi, et à 3% par mois. Donc, il faut vraiment assurer.
Il faut des projets rentables.
Voilà. Vous avez de l'épargne, qu'est-ce que vous en faites? En fait, qu'en faisaient les Chinois? De l'investissement foncier, de l'investissement dans les enfants pour qu'ils fassent une carrière mandarinale, et puis de la corruption totale, parce que pour gagner de l'argent, il vaut mieux aller corrompre le petit leader local plutôt que développer des grands projets. Donc, première grande explication, il manque de capital. Deuxième grande explication, ça m'a fait le souvenir du livre de Jean Favier, De l'or et des épices, qui explique comment l'homme d'affaires au Moyen-Âge s'est développé en Europe. Et là, ce que nous dit Gipoulou, c'est ça s'est pas passé là-bas. La condamnation de l'homme qui accumule de manière privée, qui fait des profits, fait que votre statut social est très très bas en Europe si vous êtes un entrepreneur, alors qu'en Europe la bourgeoisie a dit aux nobles: vous avez votre statut social par la naissance, moi je vais le gagner par mon travail, par mon intelligence, par mon esprit d'entreprise. Et ils deviennent cette bourgeoisie d'affaires qui va prendre le pouvoir dans les villes, qui va prendre le pouvoir au sommet de l'État. En Chine, ça ne se passe pas, nous dit Gipoulou, il n'y a pas cette mentalité de l'homme d'affaires qui se développe. Manque de capital, cette mentalité de l'homme d'affaires qui se développe pas, voilà pourquoi la Chine n'a pas connu le capitalisme.
D'accord.
J'ai trouvé ça passionnant.
Alors, Jean-Marc Daniel.
Oui, ce que raconte Christian est tout à fait ce qu'il y a dans le livre, mais c'est pratiquement le tout début.
Après, c'est tout le livre.
Oui, mais alors après, le livre va détailler tout ça. Oui. Et donc, une fois qu'on a lu l'introduction, on a les éléments que vient d'avancer Christian. Après, on rentre dans un long parcours extrêmement détaillé. Alors, il y a un travail d'érudition remarquable, incontestablement, très bien organisé. Il dit donc le commerce, puisque c'est effectivement la grande question, c'est pourquoi il n'y a pas eu cette classe de commerçants. Donc, effectivement, comme l'a dit Christian, il n'est pas du tout sur l'idée que le charbon et puis jouer un rôle, c'est vraiment les institutions et l'incapacité à transformer l'épargne en investissement. Alors il dit voilà, il y a le commerce local, le commerce interrégional, le commerce entre les régions, ensuite le commerce extérieur, et on passe tout ça en revue. Il faut d'abord beaucoup aimer la Chine, parce que alors il y a des pages assez saisissantes sur la réforme fiscale à la fin du règne des Ming au XVIe siècle. Enfin, je veux dire...
Ah, vous êtes un passionné d'histoire oui, économique,
absolument,
Jean-Marc.
Absolument, j'ai trouvé ça passionnant. Et de notre côté, je me suis dit, c'est quand même un peu loin des préoccupations, je pense, de beaucoup de gens. Et donc, je pense que c'est un travail remarquable de recherche d'intelligence. Si on lit l'introduction, on a compris le message. Après, il faut avoir un esprit un peu bénédictin pour rentrer dans le livre. Je précise quand même, j'admire le travail de l'auteur.
Hein, c'est clairement écrit. Est-ce que Gipoulou et Pomerantz s'excluent l'un et l'autre?
Ah oui, complètement.
Ça peut pas être les deux. Ah non, on peut pas acheter. Oui, c'est vrai, il y a eu le charbon pour les Anglais, mais il y a eu aussi tout ce qui est écrit dans le livre pour les Chinois.
Les deux sont un peu complémentaires, mais je crois que c'est vraiment deux lectures radicalement opposées, des raisons qui font que la Chine n'a pas pu faire ce qu'a fait le Royaume-Uni.
Mais ouais, absolument passionnant tous ces regards différents. Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel. Économie du savoir-être par Yann Algan et Élise Huillery. C'est aux éditions Presse de Sciences Po.
Oui, c'est de nouveau un éditeur qui est un éditeur du monde universitaire, donc c'est un travail de type universitaire, mais qui est plus court et donc qui est moins dense et qui est plus accessible. Alors moins dense... C'est
mais peut-être... il nous fait une petite crise de paresse, là, Jean-Marc Daniel, en début
non,
de saison.
Pas du tout.
On ne peut plus vous soumettre des gros livres.
Ah mais si, parce que je l'ai lu, mais après, le problème, c'est le rendement de l'effort.
Bon, allez, ce Yann Algan et Élise Huillery.
Et donc, il rentre dans ce domaine de l'économie qu'on appelle l'économie comportementale,
ouais.
Et donc, le thème, c'est de dire, écoutez, en France, on voit bien, on fait des efforts considérables sur l'éducation, on dépense de plus en plus dans l'éducation et on a des résultats de plus en plus décevants. On a des situations dans les entreprises où les gens sont à la fois de moins en moins, en tout cas, les gains de productivité ne sont plus au rendez-vous, les gens sont de moins en moins satisfaits de la façon dont se déroule leur carrière. Donc, il faut repenser le jugement que l'on porte sur les gens. Et donc, ils disent, en fait, il faut passer d'une analyse de ce qu'on appelle les compétences cognitives aux compétences conatives. Alors, conative, c'est un mot qui est issu de la psychologie, c'est-à-dire ce sont les compétences. Alors, les compétences cognitives, c'est le savoir, c'est les connaissances, c'est le savoir-faire. Et conative, c'est le comportement, ce qu'ils appellent le comportement social et le comportement dans la société. Et donc, et c'est un peu ce que disait Rousseau, c'est l'amour de soi et l'amour propre. Et donc, ils expliquent que on a un système qui est trop axé sur les diplômes et pas assez sur les envies, les besoins, la capacité à être mobilisé, la capacité à s'intéresser aux choses. Et donc, il propose un certain nombre de réformes dans le milieu scolaire, dans le milieu des entreprises, dans le milieu de la vie courante, pour tirer davantage profit, pour mieux organiser la société, afin que les gens qui ne sont pas forcément des polytechniciens ou des normaliens en puissance puissent exprimer leur talent, qui est un talent d'empathie, de comportement, de sociabilité, de capacité à mobiliser l'intérêt des autres. Et donc, c'est cette idée qu'on a un système qui est un système qui, encore une fois, est trop axé sur le savoir et pas assez sur l'être, sur la capacité de chaque individu. Donc, encore une fois, c'est un livre assez court, assez clair et assez convaincant.
Ça vous plaît, ça, comme idée, Jean-Marc ?
Oui, je trouve ça assez convaincant, d'autant plus qu'à un moment donné, ils disent, à force de vouloir tout axer sur le cognitif, on finit par le détruire lui-même. C'est-à-dire, on dit, bon, il faut des diplômes, donc on les donne à tout le monde, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de diplômes, mais ils ont besoin de savoir qu'ils sont reconnus et qu'ils vont être reconnus pour ce qu'ils sont.
Christian Chavagneux.
Je suis partagé. Il y a un côté du livre que j'aime beaucoup. Il y a ce constat de dire notre système éducatif et la façon dont les gens sont gérés au sein des entreprises fait que on ne développe pas toutes les compétences dont Jean-Marc a parlé et c'est un véritable problème. Constat négatif. Constat positif, les auteurs nous disent il faut peu d'investissement public, peu d'argent pour arriver à changer ça. Il n'y a pas besoin. Et là, si vous me permettez de poser ma casquette de journaliste économique et de prendre celle de président d'une association de théâtre qui essaie de remettre les gens qui sont un peu en difficulté, on voit des gens arriver qui cherchent du travail, éloignés de l'emploi, ratent leur entretien d'embauche. Ils passent 2 heures avec mon metteur en scène et comme par hasard, après, le taux de succès augmente. On prend des jeunes décrocheurs, ils passent quelques semaines avec mon metteur en scène. Ils se retrouvent en CAP et ils réussissent leur diplôme. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a ses techniques propres, mais il développe toutes les compétences dont parlent les deux auteurs. Donc oui, je suis persuadé que le constat qu'ils font négatif est juste et qu'il n'y a pas besoin de passer des années et des milliards d'euros pour corriger ça. Ça, c'est la partie du livre que j'aime bien. Par contre, il y a une autre partie du livre que j'aime moins. Les auteurs nous disent, ça explique ces comportements sociétaux, ce savoir-être, une part substantielle, je reprends leur mot, une part substantielle de la croissance économique en France. Je ne crois pas que la somme des compétences, quelles qu'elles soient, des individus et d'une partie de leurs compétences des individus permettent d'expliquer la dynamique de l'économie française ou italienne ou américaine ou chinoise sur plusieurs années. Je pense que le substantiel est de trop. Et puis, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont utilisés, qui sont un peu bizarres. Ils nous disent, par exemple, en France, les élèves pensent plus que les difficultés, s'ils en rencontrent, n'est pas dû à eux-mêmes, mais au contexte extérieur. Notamment dans les milieux défavorisés. Mais peut-être que les milieux défavorisés en France ont une réelle conscience des rapports de force et de la puissance des rapports de force sociaux et qui leur sont défavorables. C'est exactement ce qu'écrivait François Dubès dans un livre dont on avait parlé tous les deux et qui nous dit.
Mais alors, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans?
Ce qui me gêne, c'est que c'est pas un problème de savoir-être, c'est un problème de rapport de force sociaux.
Oui.
Vous pouvez toujours leur apprendre à avoir de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la coopération. Ils vont se retrouver face à des gamins de familles plutôt aisés qui ont un 100 mètres, eux, ce sera une course d'obstacles et de haies. Donc ça suffira pas. Il y a plein d'exemples. Je vous en donne juste un autre. Est-ce qu'on peut mesurer l'optimisme? Il se trouve que en France, les élèves ou les adultes sont moins optimistes qu'ailleurs, et donc ils vont moins réussir. Mais l'optimisme, quand on regarde précisément comment il les mesure, est-ce que vous croyez dans la science? Est-ce que vous croyez dans le progrès technologique? Je me demande ce que vont bien devenir quand ils vont grandir Patrick Artus et Daniel Cohen, parce que ce sont des techno-pessimistes. Donc, vous voyez, ils n'ont pas du tout les qualités pour réussir dans la vie. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a souvent, et on retrouve plusieurs fois, 3-4 fois, 5 fois, des indicateurs, soit qui sont bizarres, soit dans l'interprétation, je ne suivrai pas les auteurs. Mais pour la partie générale, et qui est le cœur du livre, c'est important comme compétence, et on peut y remédier de manière plutôt simple sans avoir besoin de cours d'investissement, je les suis.
Oui, parce qu'on ne peut pas nier que moins gaspiller le capital humain, ce serait quand même un
ça facteur. Va au-delà du capital humain, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, le sens de la coopération,
l'ensemble du capital humain,
le fait de se sentir intégré dans un groupe ou pas, c'est tout ça, et ça on ne peut pas nier que ce soit important.
Merci messieurs, allez, c'est l'heure de retrouver notre chroniqueuse Alexandra Paget qui va nous parler de protectionnisme.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Alexandra.
Bonjour Emmanuel.
Alexandra, quand est-ce qu'on arrête notre merveilleuse machine à voyager dans le temps?
Alors aujourd'hui, on va s'arrêter au milieu du 19e, Emmanuel.
D'accord.
Et alors en Grande-Bretagne, on est en plein dans l'actu.
Ouais.
Rien à voir avec la reine, en revanche, parce que c'est là, en pleine révolution industrielle et intellectuelle portée par la doctrine de libre-échange britannique, Khalil Hayidi, l'auteur du livre dont on parle aujourd'hui, situe l'émergence de la notion de protectionnisme, c'est-à-dire la politique des États qui vise à limiter le volume des importations.
Et donc, ce livre, c'est « Histoire mondiale du protectionnisme ». Donc, d'Ali Hayidi, quelques mots sur l'auteur, Alexandra?
Oui, alors, Ali Hayidi, il est docteur en sciences politiques, journaliste et chercheur au laboratoire de l'École de guerre économique. Il a écrit plusieurs ouvrages, justement, de référence sur le sujet, dont celui-ci. Vous allez voir que celui qui nous occupe relève bien de l'intelligence économique, effectivement.
Et donc, avec l'avènement du libre-échange et plus tard de la mondialisation, naît le pendant, évidemment, du libre-échange, le protectionnisme.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est... Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Hein. Plus le monde est ouvert, plus il faut se protéger, commercialement parlant, et pas que, d'ailleurs. Selon l'auteur, partout avant le 19e, que ce soit dans les empires aztèques, mayas, chinois, les royaumes africains, la société maghrébine, partout le marché est réglementé, donc protégé. Dans les sociétés occidentales, l'économie reste essentiellement et socialement ancrée dans les sociétés, jusqu'au libre-échange, justement. La pleine et entière liberté économique naît non sans heurts à ce moment-là, et c'est là que naît le protectionnisme, Emmanuel. Alors, on va jouer à un jeu. Vous allez me donner des exemples de matières premières, et on va regarder ce qui s'est passé sur ces marchés et ce qui était la thèse d'Ali Hayidi.
Les céréales, par exemple.
Bingo. Elles sont devenues l'un des principaux objets stratégiques du commerce international et stratégique tout court. Ben, je vous parle pas de la guerre en Ukraine. Et la politique agricole commune, la fameuse PAC, qui vise à redonner à l'Europe son indépendance alimentaire en garantissant aux agriculteurs des prix stables, est productiviste et protectionniste, cette PAC, à l'image de la politique interventionniste américaine en la matière. Et la PAC, c'est
1962. Si je vous dis le charbon et l'acier.
Les métaux, en général, c'est un enjeu stratégique depuis l'âge de fer, si on va loin.
Ouais.
Donc, mais en Europe, toujours, c'est Robert Schuman qui propose en 1960, ce coup-là, la création de la CECA, Donc, objectif, harmoniser le développement de la sidérurgie et libérer les frontières intérieures. On est toujours dans une doctrine protectionniste.
Le pétrole.
Là encore, les Américains sont les pionniers, suivis par les Britanniques. Vous vous souvenez de British Petroleum.
Ouais.
Ils obtiennent à ce moment-là la tutelle sur l'Iran et l'ancienne Mésopotamie, qui va d'ailleurs devenir l'Irak, qu'ils créent de toutes pièces, justement, pour avoir une chasse gardée pétrolière, Emmanuel. La France s'y met, mais c'est encore au début des années 60 que les pays producteurs décident eux aussi de s'organiser. Et vous avez donc l'OPEP à ce moment-là. Protectionnisme, toujours.
Et là, on y est toujours.
Et on y est toujours. De plus en plus.
Ouais. Et donc, ce que vous retenez de ce livre, qu'est-ce qui vous a particulièrement passionné ?
Alors, ce qui est absolument passionnant dans ce livre, je vais vous donner une toute petite anecdote. J'ai une amie qui vient dîner chez moi, qui regarde ce bouquin sur la table parce que je devais le chroniquer, qui me dit « Ah bah dis donc, super, c'est hyper drôle !» Et je fais « Détrompe-toi, hyper intéressant !» Alors c'est un pavé, hein, mais ce que vous apprenez là-dedans, d'abord c'est une somme, mais c'est une lecture extrêmement actuelle finalement de la marche du monde. C'est-à-dire la conclusion d'Ali Laïdi, c'est encore plus actuel et je vous la lis. L'économie n'est jamais figée dans un camp, celui du libre-échange ou celui du protectionnisme. L'erreur des élites et des dirigeants est de vouloir l'enfermer dans un schéma réducteur, soit complètement ouverte, soit totalement fermée.
Merci Alexandra Paget pour cette grande saga du protectionnisme. Et on retrouve tout de suite celui qui se joue avec brio des frontières, Benaouda Abdelhaïm, notre globe-trotteur, pour sa moisson hebdomadaire d'études glanées dans le monde entier.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Allez, on commence par le chemin compliqué qui attend la nouvelle première ministre britannique.
Oui, la boussole compliquée de Liz Truss. Cette boussole compliquée est analysée en Italie par Eleonora Poli, une économiste spécialiste des questions européennes, consultante pour différentes institutions publiques, notamment à Rome. Alors, l'ironie du sort rappelée ici est que celle qui fut la ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson avait jadis plaidé pour le maintien dans l'Union européenne. Mais ensuite, elle est parvenue à effacer ce souvenir et à devenir populaire auprès des partisans les plus radicaux, les plus convaincus du Brexit. Alors, ce moment de bascule, nous raconte l'économiste italienne, est intervenu en 2019, lorsque Liz Truss, qui était alors à la tête du commerce extérieur, négocie plusieurs accords commerciaux en dehors de ce bloc des 27 qui enfermait le Royaume-Uni, selon cette thèse. Alors, avec la Corée du Sud, avec un groupe d'États de la Caraïbe, avec Israël, la Suisse, et ils sont alors dit qu'avec elle, on pouvait enfin regarder vers le large. Aujourd'hui, Brexit mis à part, c'est à la difficulté d'un contexte intérieur fragmenté que la nouvelle première ministre britannique aura à se confronter. Et voici sa boussole intérieure. Au nord, vous avez l'Écosse et ses velléités grandissantes d'indépendance, mais avec des Écossais qui ont chacun un déficit public de 2200 livres qui est couvert par Londres. Pour autant, dans moins de 2 ans, ce sera, nous dit Eleonora Poli, encore un rendez-vous avec leur idée nationale écossaise. À l'ouest, vous avez l'Irlande du Nord, qui est à part parce qu'elle partage encore cette Irlande du Nord des règles commerciales communes avec l'Union européenne, ce que les pro-Brexit qui ont porté Liz Truss au pouvoir considèrent comme une anomalie absolument à régler, quels qu'aient été les arrangements conclus avec Bruxelles. Ce qui amène au front sud, je cite, l'Union européenne qui entend faire appliquer, respecter tout le traité de sortie ratifié en bonne et due forme par les Britanniques. Enfin, il y a l'aiguille qui indique l'Est, le Grand Est. Liz Truss craint que certains gouvernements du continent ne finissent par céder au chantage énergétique, je cite encore, de Moscou. Elle n'entend pas dévier elle, même si de sa position la plus ferme, elle le fait poser cette position sur les épaules de son électorat. Oui. Un coût supplémentaire, donc un épaule déjà courbé, écrit l'économiste, par le Covid, l'inflation et les prix exorbitants de l'énergie.
Justement, vous nous parliez d'Europe de l'Est, restons-y avec les perspectives concernant le prochain élargissement de l'Union européenne vers l'Est.
Compliqué et coûteux, c'est ce que nous dit Barbara Lippert, qui est chercheuse au SWP, l'Institut des Affaires Internationales et de Sécurité de Berlin. Alors, fin août, dans un grand discours de politique européenne prononcé à Prague, le chancelier social-démocrate allemand Olaf Scholz a plaidé pour une Union européenne élargie vers l'Est, pouvant englober à terme jusqu'à 36 États. Quelques jours auparavant, Barbara Lippert, du SWP, l'Institut des Affaires Internationales et de Sécurité de Berlin, avait publié cette note en jugeant combien cette éventuelle perspective allait être complexe et chère. La chercheuse allemande prévient que la feuille de route classique d'adhésion ne peut plus fonctionner. Elle estime qu'il va plutôt falloir avancer simultanément dans trois cadres d'action. Les négociations traditionnelles d'accession au statut d'État membre, qu'on connaît tous, étoffer le processus d'association avec des étapes intermédiaires, et puis élaborer aussi un nouveau format comme une zone européenne politique et économique. Alors autrement dit, il faut combiner la routine de la procédure en vigueur depuis de longues décennies et l'audace d'une toute nouvelle communauté européenne, mais sans en occulter aux citoyens le prix. Des tableaux synthétiques très instructifs donnent à voir ce qui a déjà été consenti pour l'Ukraine, pour la Moldavie, pour la Géorgie, et les montants se révèlent déjà extraordinaires. Entre la date de l'invasion de l'Ukraine et la date de publication de ce document en août, l'UE a fourni à Kiev 12 milliards 820 millions d'euros d'assistance financière par différents canaux. Et viendra le jour, le temps de la reconstruction. Le défi financier pour l'Union, nous dit l'autrice, sera alors énorme, à l'image de celle de 1989, mais avec une différence. À l'époque, c'était dans un esprit d'optimisme, écrit-elle, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, tous ces chantiers pour un projet institutionnel qui demeure tout à fait unique au monde, ça supposera de maîtriser par ailleurs les risques d'intégrer de petits États à l'assise démocratique encore faible et aux frontières toujours incertaines. L'UE sera alors encore davantage complexe et expérimentale, je cite Barbara Lippert.
Enfin, il y a du nouveau sur le front de la natalité en Inde, Benaouda.
Oui, masculinité à la naissance en Inde, début de normalisation. La puissance démographique indienne est en train de changer de nature et, semble-t-il, plus vite que prévu.
Ouais.
Yunping Tong, spécialiste de ce domaine, issu de l'université de Shanghai, explique ici pour le centre américain Pew comment le ratio de sexe à la naissance commence à se normaliser en Inde. Lorsque l'avortement a été légalisé en 1971, le taux était de 105 garçons pour 100 filles. À partir de là, le taux est monté jusqu'à 111 garçons, et avec la généralisation de l'échographie dans les années 80 et puis surtout 90.
Ouais.
On peut dire que l'effet prix a beaucoup joué. Dans les années 70, un test prénatal par amniosynthèse, à l'époque, c'était extrêmement coûteux et rare. En 2015, est venue une campagne qui a été lancée sur le thème, une campagne publique, Sauver la fille. Et alors, le ratio est retombé aux dernières nouvelles, autour de 108. Le changement essentiel provient d'une plus grande réduction de la sélection au sein des communautés qui avaient auparavant les déséquilibres les plus importants. C'est le cas en particulier chez les Sikhs, où chacun a constaté dans cette communauté que la difficulté de trouver une épouse. Ceci pouvant expliquer cela peut-être. Et il y a aussi une forme de désillusion du fils, je cite. C'est un phénomène qui est apparu en Inde. Pour ainsi dire, le retour sur investissement escompté, de façon très prosaïque, n'est plus ce qu'il était. Et il augmente avec la fille. Donc, aussi une autre explication.
Ah, c'est fou, ça.
Et on a surtout aussi une description très instructive des aversions à la fille en fonction de la géographie, avec un souci essentiel qui relève aussi de ce qui a pu apparaître comme de la rationalité économique, encore une fois, celle de la préservation des biens ancestraux transmis par les hommes à des hommes dans la lignée d'héritage. Et c'est notamment le cas, par exemple, dans les États agricoles comme le Punjab, au nord-ouest, ou son voisin l'Ariana. Et à cet égard, ce rapport ne détermine pas de lien, de causalité exacte entre groupes religieux et les choix des familles indiennes avant la naissance.
Merci beaucoup, Benaouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Republication d'un ouvrage du grand économiste britannique Joan Robinson, Essai sur l'économie de Marx. Nouvelle traduction, nouvelle traduction, c'est bien ça, introduction remarquable de Ulysse Jolkin, qui est un économiste français qui a fait la traduction aussi, pour nous remettre dans le contexte. C'est un éloge, mais un éloge critique de l'approche économique de Marx. Et on sait bien sûr que Joanne Robinson, elle a beaucoup travaillé avec Keynes. Et elle nous dit, dans cet essai, entre autres choses, il y a plein de choses dans l'essai, elle sent chez Marx les prémices de l'idée de demande effective qu'on va retrouver chez Keynes, et sur le fait que l'investissement est le vrai moteur du capitalisme plutôt que la consommation. Plein d'idées, ça foisonne. Joanne Robinson, il faut toujours la lire.
Formidable. Jean-Marc Daniel.
D'abord, je rejoins Christian, il faut lire Joanne Robinson, même si je ne partage pas ses idées. Elle était à l'extrême gauche du Parti travailliste, mais c'est un esprit brillant. Alors moi, j'ai choisi un grand classique, c'est le Ramsès de cette année, le Ramsès 2023, qui vient de sortir, donc qui s'appelle L'Europe en guerre. C'est vraiment un ouvrage de qualité, comme d'habitude, des articles qui sont centrés cette fois-ci, effectivement, sur les problèmes géopolitiques, moins sur les problèmes économiques.
Un rapport annuel sur la géopolitique, le Ramsès.
Voilà, absolument. C'est produit par l'IFRI, qui est de nos think tanks spécialisés dans la géopolitique et la diplomatie. Donc, la qualité, comme tous les ans, est au rendez-vous.
Allez, on parle beaucoup de mondialisation dans cette émission. Je continue avec l'épicerie du monde. Vous vous rappelez ? Vous aviez chroniqué tous les deux le magasin du monde. Oui. Et bien là, c'est l'épicerie du monde, sous la direction de Pierre Singaravelou et Sylvain Vénère. C'est chez Fayard. Et donc, effectivement, 2 ans après le magasin du monde, il récidive avec tous les produits alimentaires, des frites au parmesan, de la shorba au ceviche. Il raconte le parcours de tous ces produits, plus de 100 produits alimentaires passés à la moulinette de l'histoire, qui permettent de mieux comprendre la mondialisation. Et puis le produit peut-être le plus mondialisé de tous, et puis c'est l'occasion de rendre hommage à la reine Elisabeth II, le Christmas Pudding. Est-ce que vous connaissez la recette du Christmas Pudding? Eh bien, vous savez qu'elle est élaborée, c'est ce qu'on apprend dans ce livre, en hommage à tous les petits joyaux de l'Empire britannique. Et donc il y a dans le Christmas Pudding un ingrédient qui vient de chacune des colonies britanniques. Alors je vous cite le rhum jamaïcain, les raisins secs d'Australie, le sucre des Antilles, la cannelle de Ceylan, les clous de girofle de Zanzibar, les épices d'Inde et le brandy de Chypre.
Et voilà. Les paradis fiscaux des Caïmans.
Ah bah ça, quand on est dans un paradis fiscal, on déguste encore mieux, sans doute.
On l'apprécie encore mieux.
Voilà, son Christmas pudding. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.